Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire de Passage. Dans sa chronique de la semaine dernière, Raphaël à côté de moi évoquait un article qui expliquait que le marketing dédié aux jeux vidéo avait largement favorisé l'idée que ces derniers étaient une activité de garçon. Son sujet m'a beaucoup inspirée dans le choix de l'œuvre que je m'apprête à vous présenter. Il n'y sera pas question de jeux vidéo ni de marketing, mais de genre masculin et féminin. Comme vous le savez, la question du genre anime de nos jours de nombreux et houleux débats. Mais figurez-vous qu'elle a été soulevée bien avant notre époque, notamment au Moyen-Âge, plus précisément au XIIIe siècle. C'est au XIIIe siècle que vécut un certain Eldris de Cornouailles. Peu d'informations nous sont parvenues à son sujet. Par contre, il a laissé une anthologie rassemblant des textes très divers, écrits en vers et en langue romane. Parmi ces textes se trouve le roman de silence. Le roman de silence est qualifié par Eldris de Cornouailles lui-même d'aventure comme vous n'en avez jamais rencontré dans aucun livre. Il relate l'histoire d'une petite fille, prénommée Silence, que ses parents font passer dès sa naissance pour un garçon. Pourquoi gissent-ils de la sorte? Leur décision s'explique par un drame survenu quelques années auparavant, pendant les festivités organisées en l'honneur du mariage du roi d'Angleterre. Deux comtes s'étaient alors épris de deux jumelles. Chaque comte était persuadé d'avoir épousé l'aînée et par conséquent de pouvoir revendiquer l'héritage de leur beau-père. Leur querelle donna lieu à un duel judiciaire où, malheureusement, les deux comtes trouvèrent la mort. Le roi d'Angleterre, éploré d'avoir perdu deux vaillants chevaliers, prit donc la décision d'interdire à toutes les femmes d'hériter. À sa naissance, Silence est fille unique. Ses parents, le duc et la duchesse de Cornouailles, refusent qu'elle ne puisse pas hériter de leur prestigieux titre et comté, d'autant plus que Silence est par son père la petite nièce du roi d'Angleterre. Silence reçoit donc l'éducation d'un garçon. Elle est élevée à l'abri des regards dans une maison isolée située en plein milieu d'un bois. Contrairement aux filles de son âge qui restent enfermées, elle effectue de nombreuses activités en plein air. Elle apprend à lire et à écrire, à monter à cheval, à chasser et à se battre. Cette éducation ne plaît absolument pas à Nature. Dans ce roman, il faut savoir que Nature est un personnage à part entière. Un second personnage tout aussi original l'accompagne. Il s'agit de Culture. Nature et Culture veillent sur Silence. Contrairement à Nature, Culture encourage Silence à se considérer comme un garçon. Une définition de Nature et Culture s'impose. Dans ce récit, Nature correspond au corps. Dans le corps, nous avons le cœur, qui est le siège de la volonté au Moyen-Âge. Eldris de Cornouailles assimile la volonté au désir, voire à la folie, surtout chez les femmes. Nature comprend aussi des prédispositions à certaines activités. Ainsi, Nature sermonne Silence en lui disant « Tu ne dois pas vivre dans les bois, lancer des javelots, tirer et chasser à l'arc. Sors de là, c'est Nature qui te le dit. Va faire la couture dans ta chambre, voilà ce que réclame la naturelle. » Quant à Culture, nous pouvons l'assimiler à la raison, par opposition à la folie. Par extension, Culture englobe l'éducation qui peut corriger certaines prédispositions naturelles. Si Nature est forte et contente de l'éducation donnée à Silence, c'est qu'elle a mobilisé tout son art pour concevoir cette dernière. Nature déclare en effet que Silence est la plus belle femme de sa création. Au passage, Eldris de Cornouailles détaille toutes les caractéristiques physiques de Silence. Et pour ma part, bon, j'ai eu le regret de lire que je ne correspondais absolument pas à ses critères de beauté, mais enfin bref, ne nous apitoyons pas. Alors qu'elle a 12 ans, le quotidien de Silence est perturbé par l'arrivée d'un jongleur et d'un harpiste. En effet, ses parents, le duc et la duchesse de Cornouailles, avaient invité ces deux artistes pour divertir leur cour. Au bout de plusieurs jours, ils reprennent leur itinérance. Sauf que le premier jour de leur voyage, ils sont surpris par la nuit noire. Ils demandent alors l'hospitalité dans la maison la plus proche. Cette maison est celle de Silence. Cette rencontre fait prendre conscience à Silence de sa situation très délicate. Elle a été élevée comme un garçon, mais s'estime incapable de devenir un chevalier digne de ce nom. Ou même une dame convenable, si un jour se présentait la possibilité de révéler sans crainte sa véritable nature. Elle décide donc de s'enfuir avec les deux artistes afin d'apprendre la musique et pouvoir ainsi plus tard gagner sa vie. Si vous souhaitez découvrir ce qui attend Silence, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux, où ce récit peut être emprunté. Petit avertissement, vous le trouverez dans le recueil intitulé « Récits d'amour et de chevalerie » du XIIe au XVe siècle, dirigé par Daniel Régnier. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une lecture très courte. En outre, sa traduction en français moderne le rend très accessible. Ensuite, parce que le roman porte une attention toute particulière à la question du langage. En tant que lecteur, vous vous rendrez compte de la forte influence du langage sur notre héroïne. Son prénom rappelle qu'elle est contrainte de se taire sur sa véritable nature. Il témoigne aussi de son ambivalence. En effet, dans le récit original, Silence est tantôt appelé Silentius ou Silentia, soit la déclinaison masculine ou féminine du terme silence en latin. De même, Eldris de Cornouailles emploie simultanément le pronom masculin et féminin pour la désigner. En outre, j'ai trouvé intéressant de lire que Silence joue parfaitement son rôle de garçon à partir du moment où son père lui explique pourquoi sa véritable nature était cachée. Elle vient alors d'atteindre l'âge de raison, un âge favorable à culture. Pendant son explication, le père l'appelle « mon fils ». Ce passage m'a fait penser à Dieu, qui d'après la Bible créa la lumière sur une simple parole. Dans un premier temps, Silence semble contrainte et perturbée par ce secret. Toutefois, vous découvrirez que son silence sera la clé de tous ses succès. Outre le langage, le récit propose une réflexion sur l'opposition entre le sexe et le genre, entre l'inné et l'acquis. La citation sur les supposées prédispositions naturelles des femmes que vous avez entendue il y a quelques instants pourrait laisser penser que Eldris de Cornouailles défend une prédominance de nature sur culture. C'est effectivement ce qu'il soutient dans la première partie du récit. Toutefois, le parcours de Silence a pu suggérer au public médiéval que cette problématique était plus complexe qu'elle n'y paraissait. Le personnage de nature le reconnaît d'ailleurs elle-même. Si elle défend devant culture qu'une solide éducation peut contraindre le penchant au mal d'un être naturellement mauvais, elle admet qu'une éducation négligée peut entraîner un être naturellement bon vers le mal, sans que sa véritable nature puisse un jour prendre le dessus. À mon sens, cet aveu esquisse une première réponse. Les êtres ne seraient pas tant conditionnés par leur sexe que par leur volonté de faire le bien. Plus généralement, si vous appréciez la mythologie arthurienne ou l'histoire de Tristan et Iseult par exemple, vous apprécierez ce roman qui reprend tous les codes des récits d'aventure et d'amour en vogue au Moyen-Âge. Eldris de Cornouailles vous réserve de nombreux rebondissements qui, je n'en doute pas, vous tiendront en haleine jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire.